Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission d'Arrêt sur Image. Échec des masques, échec des tests, application Covid délaissée, la critique de la gestion de la crise par les commentateurs français a largement été faite, mais qu'en pensent les journalistes étrangers et surtout ceux d'un pays sans cesse comparé à la France? Pendant une heure, nous plongerons dans le regard porté par deux correspondants allemands à Paris sur la gestion par le gouvernement français de la plus grande crise sanitaire contemporaine. Mais avant cela, Julie Lemest, journaliste à Arrêt sur Image, est avec nous. Bonjour. Vous êtes avec nous pour nous parler de ce documentaire complotiste sur le Covid dont tout le monde parle en ce moment. Ça s'appelle Hold Up. C'est un documentaire autoproduit grâce à 200 000 euros de financement participatif. C'est signé Pierre Barnérias et pour les commentateurs et les utilisateurs de YouTube, et bien cet ancien journaliste est assez connu, notamment avec sa chaîne YouTube Tana TV.
Oui, sa chaîne YouTube Tana TV, Tana comme la mort en grec. C'est une chaîne qui était consacrée jusque récemment aux expériences de mort imminente, c'est-à-dire un moment de conscience qui intervient entre la vie et la mort et dont la science n'a jamais démontré l'existence jusqu'ici. Mais la chaîne a connu une nouvelle vie avec l'épidémie de Covid, quand Barnérias s'est mis à inviter des experts covido-sceptiques, que pour certains on a déjà pu voir dans des articles d'Arrêt sur Image. C'est le cas notamment du docteur Christian Perron. C'est le cas aussi, sinon a été invité aussi Alexandra Henrion-Caude sur la chaîne de Barnérias. C'est des invités qu'on va retrouver dans son documentaire Hold Up. Pour définir ce dernier, on peut dire sans abus de langage que c'est un documentaire qui est complotiste parce qu'il veut démontrer que derrière les errements de la gestion de la pandémie de Covid, il y a un complot mondial.
Et qu'est-ce qu'il raconte précisément ce documentaire ?
Alors en fait, c'est un documentaire qui est en deux parties. Il y en a une qui revient sur à la fois des problèmes réels de gestion de la pandémie du Covid, mais qui sont présentés d'une façon qui va dans le sens d'une thèse, d'un complot ou de problèmes autres. Et cette partie-là, elle reprend également des informations qui sont fausses et qui ont déjà largement été traitées et contredites dans la presse. Par exemple, le fait que la chloroquine soit un remède miracle, l'origine artificielle du virus, etc. Dans la deuxième partie du documentaire, on passe à un niveau au-dessus parce que le documentaire explique que tous ces problèmes, toutes ces questions-là, sont le résultat d'un complot mondial qui est mené entre autres par les habitués Bill Gates, David Rockefeller, Jacques Attali, l'immunologue Anthony Fauci américain, sous le chapeau d'un projet qui s'appelle le Great Reset, la grande réinitialisation, et qui serait porté par le Forum économique mondial de Davos. Et là, la thèse mélange tout un tas de théories de la conspiration qui existaient déjà. Il y a celle sur les vaccins, il y a celle sur la 5G, il y a celle sur la dématérialisation de l'argent, beaucoup sur les élites, le transhumanisme, le nouvel ordre mondial. Alors pour l'information, il y a réellement un projet qui s'appelle The Great Reset sur le site du Forum économique mondial de Davos. C'est un groupe de réflexion sur le monde après Covid. Les gens peuvent aller le voir et savoir ce que ça raconte réellement.
Mais ça n'a rien à voir explicitement avec ce que raconte le documentaire. Alors du coup, les journalistes sont un peu pris en tenaille parce que soit ils ne parlent pas de ce sujet-là et auquel cas ils laissent passer de fausses informations, soit ils en parlent, mais au risque d'en faire la publicité.
Voilà, typiquement, en tant que journaliste, c'est un objet qu'il est difficile de traiter, c'est un objet qui a ses propres réseaux de diffusion, qui touche un public large par les réseaux sociaux, sans avoir besoin de la presse.
Là, on l'a bien vu, hein, 200 000 euros levés sans aucun média derrière, c'est assez incroyable.
C'est assez incroyable. Et aujourd'hui, il a aussi 121 000 euros de financement mensuel sur Tipeee. Donc, à voir combien de temps ça va durer. Le journaliste, ouais, et les boîtes de production. Et c'est un film qui présente des propos qui peuvent pousser les gens à se mettre en danger, par exemple s'ils ne mettent pas le masque. Donc en tant que journaliste, on a envie d'en parler pour faire du fact-checking, pour expliquer en quoi c'est faux. Mais en même temps, plus on parle de ce film, et là tout le monde en a parlé, il fait la une de Libé aujourd'hui, il y a eu des articles de debunking dans Libé, dans Le Monde, dans France Info. Nous, on l'a traité par le biais de la chaîne YouTube de son réalisateur. Plus on en parle, et plus ça peut potentiellement lui faire de la publicité. Ce qu'on peut noter donc sur ce film-là, c'est que c'est un dispositif qui procède, comme souvent dans les objets complotistes, par des allusions, par des sous-entendus. On montre des failles, on pose des questions, et la thèse en elle-même, il faut la reconstruire, le spectateur la reconstruit à partir de tout ça, parce que dans le fond, c'est une thèse qui, si on la présente telle qu'elle est, paraît absurde, enfin, est absurde pour tout le monde. Mais comme on est dans quelque chose qui a un peu de vrai, vraies, beaucoup d'informations fausses et beaucoup de thématiques, on raccroche beaucoup de théories du complot qui existent déjà, qui ont déjà leur propre audience. Ça fait beaucoup de points d'entrée dans le documentaire et du coup, il peut toucher un large public.
Et ça pose plein de questions sur le complotisme dont on reviendra durant l'émission. Merci Julie.
Merci Nassira.
Quel regard portent les médias allemands sur la gestion de la crise Covid par la France? Eh bien, pour y répondre, deux invités journalistes parmi nous. Tout d'abord, Britt Attenberg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes correspondante de l'hebdomadaire Der Spiegel, tiré à 1 million d'exemplaires chaque semaine. Et également avec nous, Léo Klim, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi correspondant allemand basé à Paris et vous travaillez pour le, alors pardonnez-moi la prononciation, Süddeutsche Zeitung. Est-ce que
oui,
ça va ?
Ça va.
Voilà.
C'est pas mal.
Quotidien le plus vendu en Allemagne après le Bild. Pour démarrer cette émission, petit retour en arrière d'à peine quelques jours. Nous sommes le 28 octobre 2020. Le Premier ministre Jean Castex prend la parole au lendemain de l'allocution du président de la République Emmanuel Macron pour donner les modalités du nouveau confinement.
Les dérogations qui avaient été établies au printemps seront maintenues. Les commerces alimentaires essentiels, les stations-service et les garages, les laveries et blanchisseries, les magasins de journaux et les tabacs, les opticiens, certains magasins spécialisés, l'équipement informatique, les télécommunications, la location de voitures et d'équipements, les hôtels qui peuvent garder une petite activité pour les déplacements professionnels indispensables. Mais les restaurants dans ces hôtels seront fermés, seul le room service pouvant fonctionner. En ce qui concerne les lieux de culte, ils resteront ouverts. En revanche, les cérémonies religieuses seront interdites, sauf pour les enterrements, dans la limite de 30 personnes, et pour les mariages, dans la limite de 6 personnes.
Voilà, on voit bien avec cet extrait à quel point le Premier ministre peut rentrer dans les détails sur les conditions d'ouverture ou de non-ouverture des magasins et des commerces. Peut-être première question, Britt Attenberg, est-ce que selon vous, cet extrait symbolise la communication de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement français ?
Là, c'est plutôt un discours technique qui donne des détails par rapport aux mesures qu'ils vont prendre. Donc non, je crois que ce qui est plutôt significatif et qui symbolise, c'est quand même, c'était des interventions du président de la République, Emmanuel Macron. Là, ce qu'on peut dire, c'est que, forcément, il y a des mesures qui sont contradictoires. Pourquoi on en a beaucoup discuté Les librairies sont fermées pendant que d'autres magasins peuvent rester ouverts, tout ça. Mais on trouve aussi quelques contradictions de ce genre en Allemagne. C'est pas exclusif à la France.
Et vous, Léo Klim, qu'est-ce que ça vous inspire, cet extrait du Premier ministre ?
Oui, évidemment, ça paraît très administratif, technocrate. Une fois que le président de la République a fixé les règles, voilà, le Premier ministre confirme un peu son image, et lui en particulier, donc Jean Castex, de quelqu'un qui est un exécutant et qui va régler les détails. Mais je suis assez d'accord avec Britta Zandberg sur le fait que, évidemment, en Allemagne, on a aussi, on voit apparaître aussi ce genre de récit bureaucratique et en détail. On se souvient notamment, ça avait fait beaucoup rire lors de la première vague, quand la chancelière avait fait toute une énumération des commerces ouverts et fermés et qu'elle avait un peu trébuché quand elle avait dû expliquer que les maisons closes allaient fermer.
Ah oui, tout à fait, je me souviens très bien de ce moment-là. Mais du coup, là, est-ce qu'il y a une part, selon vous, d'infantilisation des Français à donner dans le détail très précis de qu'est-ce qui va ouvrir, qu'est-ce qui va ne pas ouvrir, avec cette fameuse attestation aussi qui, il me semble, n'existe pas en Allemagne. Est-ce que, selon vous, c'est le symbole d'une politique qui infantilise les Français ?
Totalement. Alors, bien sûr, le degré de, comment dire, d'autoritarisme, si on peut aller aussi loin, est bien plus poussé en France. Et l'attestation de sortie en est quand même l'essence, parce que elle est infantilisante, je dirais, elle est même humiliante. C'est-à-dire, vous êtes dans une obligation de justifier vous-même, avec vous-même, tout seul, ce que vous êtes en train de faire, si vous allez sortir votre chien, si vous allez faire un jogging autour du pâté de maison, enfin, dès que vous mettez le nez dehors. Et donc, oui, ça, c'est assez fort. Je trouve que, bon, voilà, il y a de toute façon un rapport aux citoyens, qui est d'ailleurs un mot, je trouve, qu'on entend assez peu, qui était autrefois un mot noble, un rapport aux citoyens qui est quand même assez autoritaire, directif, et donc pas vraiment empreint de confiance. Et voilà, ça, je pense que c'est quand même une différence notable, disons, dans la culture politique et dans le système politique.
Et Britta Thunberg, pour les lecteurs de Der Spiegel, cette attestation, c'était aussi un objet de curiosité ?
Ah, il y avait plein de choses curieuses. Je me souviens que j'avais fait un papier quand j'ai décrit, lors du premier confinement, comment on peut se déplacer à Paris, qui avait ces applications qui vous montraient le périmètre de 1 km. Et que de chez moi, par exemple, je pouvais aller d'un côté d'une place, mais je ne pouvais pas la traverser. Enfin, il y avait toute l'absurdité. Il y a eu énormément de lecteurs de cet article, puisqu'en Allemagne, évidemment, le principe est différent. Et c'est vrai que ce que dit Léo, obliger les citoyens à émettre cette attestation est en quelque sorte, c'est la preuve d'une certaine méfiance. Ça veut dire qu'on ne fait pas confiance que les Français sont assez conscients du danger, à un tel point que eux-mêmes, ils vont se comporter comme il faut.
Et alors, du coup, vous parlez également, vous aussi, d'autoritarisme ?
Je dirais que c'est des mesures beaucoup plus autoritaires que celles qui ont été prises en Allemagne. Moi, je ferais la différence entre... Je crois qu'il y a une différence entre le premier confinement et le deuxième, maintenant. Je comprends, et ça a pu être observé dans plein de pays, que lors du premier confinement, on ne savait pas très bien, on connaissait moins bien le virus, on avait très peur, on avait vu tout ce qui se passait en Italie, en Espagne, donc que les mesures n'étaient pas toujours à la hauteur. À la limite, ça, on a pu le voir aussi en Allemagne, c'est-à-dire qu'en Allemagne, on a eu aussi une pénurie de masques, pénurie de protection, de gel hydroalcoolique, tout ça.
Oui.
Par contre, maintenant, et encore, je ne serais pas totalement d'accord avec la gestion de la crise lors du premier confinement en France. Mais je crois que maintenant, on est encore dans une situation totalement différente, puisque le président de la République et d'autres ont dit qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec le virus. Donc ça, c'est quand même une vision à très long terme. Quand il faut apprendre à vivre avec le virus, ça veut dire... Enfin, moi, je l'entends, il faut faire avec pendant 4, 5, 6, peut-être 6, 7, 8 mois jusqu'à l'été prochain.
Mais sauf que pas grand-chose n'a changé, les attestations, elles continuent à exister.
Non, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que dans une situation où on considère qu'il faut vivre,
oui.
Moi, je crois qu'on peut, à la limite, sur une courte durée, ne connaissant pas très bien la situation, par précaution, gouverner et régler les choses avec des mesures autoritaires et dans l'urgence. Mais maintenant, on n'est plus dans cette situation. Donc, combien de temps est-ce qu'on va obliger les Français à remplir ces attestations et pourquoi ? C'est ça la question intéressante derrière. Pourquoi Mme Merkel dit la liberté, c'est aussi que chacun prenne sa responsabilité pour soi, et pourquoi une telle approche est si difficile à à affronter en France.
Et est-ce que vous diriez que du coup le gouvernement, et là la question je la pose à vous deux, s'entête finalement dans sa politique, n'a pas la possibilité de rectifier le tir, de dire voilà, nous avons fait des erreurs, nous pouvons revenir en arrière, changer le braquet. Est-ce que ça, selon vous, c'est une particularité du positionnement des gouvernants français, du gouvernement français, en l'occurrence aujourd'hui le gouvernement Castex, par rapport à la gestion de la crise, Léo Klim ?
Alors, oui, j'allais dire surpris, mais non, je suis pas surpris, un peu triste de voir que le même réflexe prévaut, qui est celui de ne pas traiter les gens comme des gens adultes qui vont devoir, en fait, c'est ce que voulait dire Britta, qui vont devoir gérer eux-mêmes la crise, être des acteurs de cette crise. Et le gouvernement le dit régulièrement en rhétorique, mais dans les faits, c'est autre chose. Et il y avait eu un rapport intéressant de la part de Didier Pitté, qui est un infectiologue suisse et qui a été mandaté par Emmanuel Macron pour faire une évaluation de la gestion de crise après la première vague et avant la deuxième. Et alors, il émettait, c'est un infectiologue, un médecin, cette commission émettait beaucoup de critiques sur les questions sanitaires. Mais le point central était justement celui-là, de comment est-ce qu'on on a recours aux citoyens et comment est-ce qu'on leur demande de se comporter. Et d'une certaine façon, je pense que c'est très contre-productif de leur prendre leur liberté, parce que vous allez avoir aussi, finalement, si vous traitez les gens comme des petits-enfants, vous allez avoir des réactions de petits-enfants. Ouais. C'est-à-dire des gens qui se rébellent, qui veulent pas, et l'adhésion aux mesures est très faible. L'adhésion à la gestion de crise et au gouvernement d'Emmanuel Macron dans cette crise est très faible comparé à d'autres pays. Mmh. Ça plaide pas pour. Et on a vu récemment un sondage qui disait que 60% des Français admettaient avoir déjà enfreint les règles du second confinement dans les premières deux semaines, et donc c'est un taux plus élevé que dans la première vague. C'est-à-dire que ça nous montre que ça marche pas, ça va pas marcher par l'édiction de règles strictes.
Alors, on va avancer un petit peu dans ce contexte de crise sanitaire. Vous l'avez vu, il y a une figure qui a été une nouvelle fois convoquée dans les débats publics, alors à l'occasion des 50 ans de sa mort, c'est celle donc de Charles de Gaulle. Le mélange de l'exercice mémoriel et de la convocation quasi populiste en temps de crise ne donne pas grand-chose de bon, vous allez le voir avec ce petit florilège, cette semaine sur les chaînes d'info.
Mais si on appuyait sur le bouton machine à remonter le temps, c'était il y a 50 ans.
Française, Français, le général de Gaulle est mort.
J'espère que vous allez passer une heure délicieuse avec nous, parce qu'on ne va pas se priver de parler du gaullisme et du général de Gaulle.
J'imagine que vous saviez précisément où vous vous trouviez le jour où vous avez appris la mort du général de Gaulle, Patrice Duhamel.
Eh bien, j'étais un jeune journaliste gamin à l'ORTF.
Ça fait 50 ans qu'on nous explique que c'est ringard. Ça fait 50 ans qu'on nous explique qu'il n'y a rien à en tirer, en tout cas pour beaucoup de gens, pour beaucoup de gens qui ont gouverné.
Vous croyez que le général de Gaulle aurait fermé les commerces et les librairies ?
J'ai tenu à inviter par Skype cette femme, cette eurodéputée française qui a toujours une croix de Lorraine pendue autour du cou lorsque nous l'interviewons. C'est Nadine Morano. D'ailleurs, je crois qu'elle l'a là. D'ailleurs, bonjour Nadine. Vous avez votre croix de Lorraine ?
Je me dirais qu'il doit se retourner dans sa tombe en écoutant toutes celles et tous ceux qui se revendiquent du gaullisme ou de Gaulle, encore pire, aujourd'hui.
La croix de Lorraine, je ne la porte pas que quand vous m'invitez sur les plateaux télé, j'ai toujours sur moi.
Il y a des fétichistes quand même de la croix de Lorraine. Il y a des fétichistes.
Oui, mais il y a des fétichistes partout, je parle de moi là.
Et c'est sûr qu'avec le général de Gaulle, on n'aurait pas eu cette pagaille dans la logistique.
Bon, je vois que ça vous fait sourire, vous deux. Autre ton, autre style, plus solennel cette fois, Emmanuel Macron qui se transforme sur une vidéo postée sur son compte Twitter le 9 novembre en voix off de documentaire historique glorifiant l'apport du général de Gaulle à la France. Regardez.
Allons enfants de la...
Nous avons
à assurer le destin de la France, malgré tous les obstacles qui se dressent sur sa route.
Vive la République ! Vive la France !
C'était De Gaulle. Cet homme pénétré de l'amour de son pays, offrit par son exemple et par sa parole, sur les champs de bataille, comme bientôt en exil à Londres, sa confiance inébranlable dans le destin de la France. De Gaulle nous dit que la France est forte quand elle se tient unie.
Alors, on voit bien la volonté de créer une analogie avec le contexte actuel. Alors, c'était très clair, évidemment, dans les propos des commentateurs des chaînes d'infos. Ça l'est aussi, finalement, en filigrane dans les propos du président de la République. Léo Klim, que pensez-vous en voyant tous ces éditorialistes, ces commentateurs se demander, en fait, ce que De Gaulle aurait fait en pareille circonstance de crise sanitaire ?
Je pense que c'est un peu normal à un jour de commémoration de se poser cette question. Et voilà, c'est une figure extrêmement importante de l'histoire récente de France. Je trouve ça assez légitime de l'invoquer.
Même de cette manière-là ?
Pour nous, évidemment, nous, Allemands, on a un rapport à l'histoire. Beaucoup plus compliqué et dérangé, ça nous fait un peu bizarre. Et effectivement, ça nous paraît ringard de vouloir chercher des recettes ou chercher. Mais c'est voilà, ça témoigne surtout, d'un problème de la France de se projeter, d'être complètement dans l'aujourd'hui et donc elle est tournée vers son passé quand elle ne trouve pas d'autre figure que le général de Gaulle pour trouver de l'orientation, pour aller de l'avant, parce que voilà, on pensait qu'aujourd'hui des figures politiques inspirantes ressemblaient à autre chose, ressemblaient peut-être à Kamala Harris, à Barack Obama ou à Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande. Donc c'est voilà, et en France on sort le général de Gaulle pour nous montrer le chemin dans une crise qui est une crise inédite alors que lui avait à affronter d'autres crises à une toute autre époque.
Mais vous allez même plus loin, hein, Léo Klim, puisque dans une des analyses que vous avez publiées dans votre journal, vous dites même oui. De Gaulle est un problème, ce n'est pas la solution dans le contexte actuel.
Concernant la crise du coronavirus, j'ai publié effectivement un éditorial un peu polémique qui dit que c'est surtout son héritage politique, c'est-à-dire la Constitution de 58 et l'héritage de comment il a construit l'État qui handicape aujourd'hui la gestion de crise, notamment. La formation des élites françaises qui parce que la France est un pays qui a hérité donc de l'ENA et autres grandes écoles formant son élite, qui a une prétention d'avoir des gens qui sont particulièrement bien formés à la gestion de l'État et donc à la gestion de crise. Et on voit qu'en l'occurrence quand on regarde les chiffres, la France est en queue de peloton et ça interroge. Et je pense qu'effectivement, il y a une faillite. Donc c'est dans ce contexte-là que je dis qu'il ne faut pas avoir recours au général de Gaulle et chercher une autre approche. Ça interroge fondamentalement la façon dont est gérée. Sont gérées les affaires en France et donc la construction de l'État, hein, cette crise. Et donc, c'est pas une chose aisée, mais c'est dans ce sens-là que j'ai écrit ce texte.
Britta Sandberg, je voyais sourire. Vous partagez cette analyse ?
C'est toute la culture politique de la France et celle de l'Allemagne qui sont tellement différentes. C'est-à-dire que oui, ça a beaucoup de choses à voir avec De Gaulle et la Constitution qui survit. Enfin, c'est son grand héritage, cette Constitution de 58, la Ve République, qui donne tant de pouvoir au président de la République. Et maintenant, on se retrouve. Enfin, ce qui est étonnant de voir de l'étranger, c'est combien de Français et combien de différents partis politiques, c'est vraiment de la gauche, de Mélenchon jusqu'à Marine Le Pen, font maintenant référence à De Gaulle.
Oui.
Et moi, je crois que derrière, il y a deux choses. Il y a, premièrement, oui, on ne se tourne pas vers des hommes ou femmes politiques internationales, puisque la France a quand même toujours eu la tendance de regarder plutôt vers soi-même et regarder son propre pays. Il y a cette référence de De Gaulle aussi avec une certaine nostalgie, je crois, pour une époque où la France représentait encore autre chose qu'aujourd'hui.
Mais alors, est-ce que du coup, ça nous empêche d'avancer et de pouvoir gérer correctement une crise comme celle-là ?
Pas du tout, mais je veux dire, les choses ne changent pas d'un jour à l'autre. Une culture politique qui a été vécue et s'est développée pendant des décennies, vous n'allez pas la changer dans une situation de crise. Et moi, je crois que ça va des deux côtés. C'est-à-dire que le président, votre président, il a beaucoup de pouvoir et il peut décider lui-même beaucoup plus de choses que notre chancelière, par exemple.
Oui.
Mais de l'autre côté, les Français ont pris l'habitude de cet homme fort à la tête de l'État et ils ont aussi tendance, beaucoup plus que les Allemands, d'attendre plein de choses de cet État qui est symbolisé par le président de la République. Donc, si le président de la République promet quelque chose, il ne peut pas tenir ses promesses, c'est sa faute à lui. C'est-à-dire que là, pareil, on ne voit pas non plus une conscience politique des citoyens français qui disent « l'État assure un certain cadre, mais moi aussi, je suis responsable pour quelque chose ». Les attentes des Français envers leur État sont beaucoup plus grands que les attentes des Allemands, je crois.
Oui.
Et tout ça rentre maintenant dans une situation de crise, et ce n'est pas dans cette crise que vous allez soudainement changer un système qui est là depuis 1958, avec tous les pouvoirs du président de la République. Donc, je crois, oui, on peut changer, mais on ne peut pas changer d'un jour à l'autre. Et c'est sûr qu'en Allemagne, et déjà rien que par les processus démocratiques, il y a une plus grande acceptation des mesures.
On y reviendra justement sur la comparaison avec l'organisation politique allemande, à l'aune aussi de la crise sanitaire. Mais justement, sur cette centralité du pouvoir, il y a aussi forcément la façon de communiquer en temps de crise. Souvenez-vous, c'était le 16 mars dernier, Emmanuel Macron qui annonçait le confinement et les nouvelles mesures, enfin les premières mesures de restriction. Regardez.
Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous gagnerons. Hissons-nous, individuellement et collectivement, à la hauteur du moment. Je sais, mes chers compatriotes, pouvoir compter sur vous.
Voilà, alors il y a le vocabulaire extrêmement martial, guerrier, l'ennemi est là, mobilisation générale, le combat, et puis il y a ces envolées lyriques. Léo Klim, comment vous analysez, vous, l'utilisation de ce vocabulaire guerrier par Emmanuel Macron au tout début de la gestion politique de la crise sanitaire ?
Alors, nous, en tant qu'Allemands, ça nous fait frémir, bien sûr, hein, parce que toutes les références à la guerre nous font un peu peur. Et on pense que c'est démesuré. Et, à titre personnel, je le pense aussi. C'est pas,
vous l'avez écrit ?
Le vocabulaire à avoir. On a déjà pu discuter concernant le terrorisme. Est-ce que le vocabulaire de guerre s'applique maintenant contre un virus? Franchement, vraiment pas du tout. Et ça n'aide pas. Bon, ça vise à la mobilisation et ça vise à faire peur aussi. Ça traduit aussi, je pense, un rapport beaucoup moins complexé qu'on l'a, nous, à tout ce qui est guerre, parce que la France, de toute façon, ça fait partie aussi de son identité nationale, d'être un acteur militaire. Voilà, il y a tout ça qui...
Ce que vous dites, c'est que c'est en plus contre-productif.
Alors, Je sais pas. C'est, en tout cas, je constate que ça n'a pas dû trop faire ses preuves puisque le discours a évolué depuis et qu'il n'est plus question de guerre aujourd'hui et que le président, lorsqu'il s'exprime dans cette deuxième vague, cherche plus à, enfin, à se rallier, à faire, comme on dit si joliment en français, de la pédagogie. Donc, on a encore cette idée des citoyens.
De prendre les gens par la main comme des enfants,
voilà.
C'est ça.
Après l'exercice d'autorité, on a maintenant la pédagogie. C'est d'ailleurs les deux faces de la même médaille pour moi.
Justement, on va regarder à la fois comment Angela Merkel a pris la parole, c'était le 18 mars dernier, c'est d'ailleurs la première allocution télévisée qu'elle a faite de cette manière-là, en tout cas, depuis 14 ans, et puis également le président allemand. Regardez.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Dass wir diese Krise überwinden werden, dessen bin ich vollkommen sicher. Aber wie hoch werden die Opfer sein? Wie viele geliebte Menschen werden wir verlieren? Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand. Wir können jetzt entschlossen alle miteinander reagieren. Wir können die aktuellen Einschränkungen annehmen und einander beistehen.
Nein, diese Pandemie ist kein Krieg. Nationen stehen nicht gegen Nationen, Soldaten nicht gegen Soldaten, sondern sie ist eine Prüfung unserer Menschlichkeit. Sie ruft das Schlechteste und das Beste in den Menschen hervor. Zeigen wir einander doch das Beste in uns. Und zeigen wir es bitte auch in Europa.
Alors on voit que les propos de Frank-Walter Steinmeier sont vraiment à l'opposé de ceux qui ont été utilisés par Emmanuel Macron, en tout cas pour son premier discours le 16 mars. Angela Merkel, elle, concentre beaucoup son discours autour de la solidarité. Britta Sundberg, est-ce qu'on dirait en Allemagne que à la fois le président et surtout Angela Merkel manquent d'autorité, comme on pourrait le dire en France, si par exemple ces propos auraient été tenus ?
Non. Non, évidemment non. Je crois que le discours est beaucoup plus sobre, évidemment, ce qui à la fois s'explique là aussi par une culture allemande qui est totalement différente. L'Allemagne s'est obligée d'être modeste depuis la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc on a beaucoup de réticences à avoir un discours comme Emmanuel Macron l'a eu à peu près à la même date. Non, il n'y a pas de manque d'autorité. Je crois que, au contraire, dans d'autres discours, Angela Merkel a par exemple aussi dit ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas encore de réponse en ce moment. Ça, on ne peut pas encore prévoir. Donc, je crois que c'était plutôt un discours honnête,
oui.
Puisque la faille du discours de la guerre d'Emmanuel Macron. Si on le pense jusqu'à la fin, c'est aussi quand on a une guerre et quand on mobilise, ben on fait supposer qu'on peut gagner cette guerre, qu'on puisse gagner cette guerre. Et une guerre contre un virus, comme disait Léo, c'est compliqué, puisque déjà c'était à l'époque un ennemi qu'on connaissait mal. Donc je crois que c'était l'effort à l'époque de faire comprendre aux Français à quel point la situation était sérieuse, ce que Mme Merkel a fait d'une façon totalement différente, et c'était aussi la tentative de dire on va maîtriser cette situation, on a des moyens contre.
Mais ce que vous dites, Britta Sundberg, c'est que par rapport aux mots qui sont utilisés par l'exécutif français, notamment le président de la République, quand on a ce type de vocable, quand on n'y arrive pas, la déception est aussi forte, voire même encore plus forte.
Bien sûr. Quand vous avez une chancelière qui dit « je ne peux pas encore vous dire, on ne sait pas », ou qui vous explique les courbes, parfois vraiment d'une façon presque trop détaillée, comme une scientifique hein. – vous avez moins de reproches à lui faire puisqu'elle a fait moins de promesses. Ceux qui promettent beaucoup de choses, évidemment, créent aussi une attente, et quand l'attente n'est pas satisfaite, c'est forcément la déception qui suit. Bon, je veux quand même dire que là maintenant on est très dans la France, l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas tout bien résolu,
oui.
Et il faut quand même dire que cette situation a surpris bien de pays.
Bien sûr.
Il n'y avait pas la réaction idéale. Donc, c'est un peu injuste de dire maintenant, 8 mois après, on aurait pu faire comme ci ou comme ça. Moi, je crois que les différentes réactions reflètent parfaitement les différentes cultures politiques dans les deux pays et sans les résultats. Bon, après, maintenant, peut-être plus tard, il y a des leçons à en tirer de ça. Et puis, le gouvernement français a déjà commencé aussi de faire des tentatives de donner plus d'autorité aux régions, tout ça. Ce qui a été maintenant balayé par cette crise.
On va y arriver. Justement, vous parliez de cet exercice d'Angela Merkel d'expliquer par la courbe la question de la hausse des contaminations et de la courbe exponentielle, pardon, des contaminations. Justement, regardez, c'était en avril 2020.
J'ai simplement une modèle-rechnung gemacht. Wir hatten Ende Juni, Anfang Juli, an manchen Tagen 300 neue Infektionen. Und wir haben jetzt an manchen Tagen 2400 Infektionen. Und das heißt nichts anderes, als dass sich über Juli, August, September in 3 Monaten die Infektionszahlen dreimal verdoppelt haben. 300 auf 600, 600 auf 1200, 1200 auf 2400. Und wenn das in den nächsten 3 Monaten, Oktober, November, Dezember, weiter so wäre, dann würden wir von 2400 auf 4800, auf 9600, auf 19200 kommen. Und daran wollte ich nur zeigen, und das ist ja das Wesen des exponentiellen Anstiegs, dass die Verdopplungszeit, wenn sie die gleiche bleibt, trotzdem dann zu sehr großen Fallzahlen führt. Und das unterstreicht die Dringlichkeit, dass wir handeln, und zwar dort handeln, wo wir ein solches wieder ins exponentielle gehende Wachstum haben.
Il y a aussi cette tendance, Léo Klim, finalement, même du côté d'Angela Merkel, de vouloir être pédagogique, comme vous le disiez tout à l'heure, sur cette crise.
Mais ça n'a absolument rien de mauvais de vouloir être pédagogique. La question est aussi, est-ce que ensuite, vous, enfin, dans quel objectif vous le faites? Donc, je trouve, et je ne voudrais pas encenser la communication d'Angela Merkel non plus et les résultats allemands, mais je trouve que il y a quand même une différence dans l'approche. Est-ce que vous faites de la pédagogie en disant « je vous explique comment il faut faire, il faut me suivre » ou alors est-ce que vous faites de la pédagogie et votre message subliminal c'est « j'espère, chers citoyens, que vous allez me suivre et par ailleurs, je suis comptable de ce qui se passe ». Donc c'est quand même ça reste un autre ton et évidemment elle profite par ailleurs beaucoup de sa sobriété qui lui a beaucoup été reprochée dans d'autres situations.
Là ça devient un avantage.
Ça paraît rassurant du fait qu'elle soit une scientifique. Voilà, aujourd'hui en termes de communication pour elle c'est tout bénef.
La manière de communiquer dit aussi beaucoup de la gestion politique de la crise sanitaire. On va écouter des journalistes allemands interrogeant Angela Merkel et puis ensuite des journalistes français interrogeant le Premier ministre. Et ensuite, je vais vous demander votre avis sur la comparaison.
Frau Bundeskanzlerin, zumindest im Entwurf des Textes steht gleich im ersten Satz, trotz der Maßnahmen, die Bund und Länder vor 2 Wochen vereinbart haben, steigt die Zahl der Infektionen in starker Dynamik. Heißt das, dass das Land und die Bürgerinnen und Bürger jetzt den Preis dafür bezahlen, dass die Ministerpräsidenten und Sie sich vor 2 Wochen nicht auf richtig weitgehende Maßnahmen einigen konnten? Ist es jetzt härter, als es gewesen wäre, wenn man damals weitergegangen wäre?
Frau Bundeskanzlerin, wie schnell können die Schnelltests für Altenheime kommen, wo sich ja durch Isolation und Quarantäne Traumatisierung der Bewohner auch schon zeigen? Und was ist eigentlich mit Bus und Bahnen, die ja voll sind, wo die Menschen eng stehen?
Hier sind jetzt Fragen möglich. Sie kommunizieren auch über die Regierungserklärung, auch über den Podcast und es gibt auch andere Möglichkeiten. Warum erwägen Sie nicht, Sie haben das Amt und Sie haben auch die Umfragewerte, sage ich mal, noch mehr Bürgerformate, um auch den Bürgern persönlich, ob per Video oder analog, die Fragen, die Sie haben, und die sind ja viele, auch weiter zu erklären. Danke.
Les ministres et moi-même, nous tenons à votre disposition, mesdames et messieurs, pour répondre à vos questions.
Monsieur le Premier ministre, bonjour. Alison Tassin pour TF1 et LCI. Vous avez évoqué les attestations. Qu'en sera-t-il pour les mineurs, voire les enfants qui se rendront à l'école par leurs propres moyens? Faudra-t-il une attestation? Et si oui, à partir de quel âge?
Bonjour, Hélène Bonnet pour LCI TF1. Ma première question concerne la tolérance que vous avez évoquée pour les retours de vacances. Faudra-t-il, lors de ces déplacements de retour, fournir une attestation spécifique ou en tout cas un justificatif?
Monsieur le Premier ministre, Frédéric Aziza, Radio J, vous avez été accusé d'imprévoyance par l'opposition face à cette seconde vague de la pandémie. Dans ce contexte, le gouvernement et vous-même, êtes-vous en capacité de gérer ces deux crises à la fois, à savoir la crise sanitaire et la menace terroriste?
Perrine Vasse pour BFM TV, j'ai trois petites questions. Tout d'abord, sur l'attestation, 1 heure, 1 kilomètre. Est-ce que vous ne craignez pas que ça accentue les inégalités pour ceux qui habitent à moins d'un kilomètre d'un parc qui va rester ouvert et pour les autres qui habiteront plus loin et qui ne pourront pas en bénéficier?
Voilà, alors, on voit bien que les journalistes français, alors évidemment, c'est une sélection, mais c'est quand même une bonne partie des questions qui sont posées, des questions très pratiques, pratico-pratiques, on dirait. Est-ce que, selon vous, Britta Sandberg et Léo Klim, les journalistes français, finalement, eux aussi, surenchérissent sur cette infantilisation dont vous parliez tout à l'heure, notamment sur la question de l'attestation, ou est-ce que, pour vous, ce sont aussi des questions qui doivent être posées par des journalistes dans ce cadre?
Bon, comme vous dites, c'est un choix. Il y a dû y avoir aussi d'autres questions. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment interpréter à partir de là. C'est sûr que, bizarrement, pendant cette crise dans les deux pays, ceux qui nous gouvernent ont dû répondre à des questions bien, bien techniques. Donc, c'était une première, en quelque sorte. Moi, je crois que la grande différence, c'est plutôt qu'en Allemagne, vous avez régulièrement des conférences de presse données par la chancelière et pas à... Donc, si on compare au niveau... Puisque notre président Steinmeier, il a vraiment plutôt des tâches représentatives. Il n'est pas du tout comparable au statut du président en France. Donc, si on veut dire qu'au niveau des leaders, c'est Macron qui et Merkel qui sont à la tête de la gestion de cette crise. On n'a pas vu le président de la République tellement accessible pour des questions. Tandis que nous, en Allemagne, on a une relation complètement différente entre politiques, hommes et femmes politiques et journalistes. Et c'est ça, je crois, qui crée plutôt la différence à côté du genre et des questions que les journalistes peuvent poser. Moi, je crois que ça fait aussi qu'elle a peut-être pu mieux expliquer les mesures que le gouvernement a décidées. Et encore là, le gouvernement n'a pas décidé lui seul ces mesures. Il y a eu, par exemple, mi-octobre, un sommet des négociations qui ont duré longtemps, je crois jusqu'à tard la nuit, entre le gouvernement fédéral et les différents gouvernements des Länder. Et à la fin de ces négociations, Mme Merkel est sortie en disant publiquement qu'elle n'était pas contente, qu'elle trouvait, considérait que les mesures n'étaient pas assez sévères. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas eu ce qu'elle aurait voulu avoir et ce qu'elle aurait peut-être décidé si elle avait pu décider seule. Donc c'est ça la différence et c'est ça aussi qui crée peut-être une plus grande acceptation des mesures prises et décidées.
Et du coup, Léo Klim, cette difficulté à pouvoir poser des questions en direct au président de la République, on voit bien, hein, ce sont des allocutions d'Emmanuel Macron, mais comme le disait justement Britta Sandberg, ce ne sont pas des conférences de presse. Est-ce que cette impossibilité de poser des questions a un impact aussi sur la capacité des journalistes et des médias à être critiques sur la gestion de la crise sanitaire?
Et alors, je pense que peut-être qu'au contraire, vous avez un certain nombre de médias qui vont être surcritiques, parce que je constate qu'il y a une polarisation comme elle existe aussi au sein de l'opinion française dans les médias. Donc, il y en a qui vont taper d'autant plus fort parce que c'est l'ennemi identifié, le président de la République. Oui, bien sûr, ça n'aide pas pour créer de l'acceptation. On a eu cette semaine aussi une conférence de presse du Premier ministre avec différents ministres sur donc le point d'étape dans le confinement. J'ai trouvé frappant qu'ils se sont exprimés pendant une heure pour ne dire rien, c'est-à-dire juste qu'il y avait un prolongement des mesures et que peut-être le 1er décembre, on allait ouvrir les commerces. Et après, il y a eu 10 minutes de questions. Voilà. Donc ça, c'est en soi un peu parlant. Il faudrait que ce soit l'inverse.
Et c'est quelque chose qui ne se fait pas tellement en Allemagne. C'est-à-dire que, est-ce que par exemple, on a plus tendance à resserrer les prises de parole, les dirigeants, et à laisser plus de temps aux journalistes pour poser leurs questions ?
La question est, est-ce que les politiques sont comptables vis-à-vis de l'opinion ? Est-ce qu'ils le ressentent comme une obligation ? Moi, très régulièrement, donc je suis un journaliste économique à la base, et je le constate aussi dans d'autres contextes, c'est que quand j'interroge des grandes entreprises, que comme j'interroge des ministères sur des questions qui sont peut-être un peu difficiles ou critiques, il y a souvent une réaction qui est de faire l'autruche et de ne pas vouloir répondre, d'éviter la réponse, de faire le mort. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe, parce que je ne connais pas ça dans les usances allemandes. Le communicant, le service presse auquel j'ai affaire va quand même toujours me répondre, même si c'est pour ne pas dire grand-chose. Et donc, c'est une question un peu d'estime, et aussi de la perception du rôle qu'on a en tant que responsable politique vis-à-vis des médias et quelque part des citoyens. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure.
Oui. Britta Sandberg, je vous vois acquiescer.
Je suis complètement d'accord. C'est ce que j'allais dire, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Je crois que les relations entre les journalistes et les hommes et femmes politiques en Allemagne et en France sont totalement différentes. En Allemagne, un homme ou une femme politique va considérer que le journaliste en face fait son travail. Donc, il va essayer de lui rendre possible de faire au mieux son travail. Bon, à condition que ce journaliste ne dépasse pas certaines règles ou limites. Et à l'inverse, il n'y a pas non plus cette attitude de la part des journalistes qui est en face, il y a quelque chose comme un ennemi ou... Oui, nous aussi, on considère que les hommes et femmes politiques font leur travail. Donc c'est beaucoup plus, c'est à la fois critique et à la fois auf Augenhöhe. Je ne sais pas comment ça se dit.
Il va falloir traduire.
À pied d'égalité, en fait.
À hauteur égale, en fait. Voilà. Il n'y a pas, cette relation hiérarchique, c'est peut-être ça. Ça a changé un tout petit peu en France, mais c'est sûr que les hommes et femmes politiques sont moins accessibles. En Allemagne, vous pouvez toujours, quand il y a un ministre, même la chancelière qui sort de la voiture, vous pouvez essayer de lui poser une question comme ça en improvisant. Je ne sais pas si vraiment en France, ça va avoir beaucoup de succès. Donc, je crois qu'il y a une plus grande proximité, voilà, ils sont plus facilement approchables et ils se sentent, comme disait Léo, dans l'obligation de tenir compte aussi de ce qu'ils font, de justifier, de donner des réponses. De ne pas donner des réponses, ce n'est pas une option pour les hommes et les femmes politiques allemandes.
Léo Klim ?
Oui, je voudrais juste préciser, évidemment, on n'est pas en Allemagne à un degré moderne que les pays scandinaves dans le rapport aux responsables politiques. Donc, je voudrais pas qu'on soit caricatural non plus. Mais c'est quand même une différence culturelle notable, et c'est un peu ce que j'ai voulu exprimer aussi par mon éditorial en disant il faut enterrer, donc en provoquant, en disant il faut enterrer le général de Gaulle. C'est vraiment sortir d'une approche autoritaire, pyramidale de la société, parce que la société française aujourd'hui n'est plus comme ça. Et les gens ont besoin, ont envie d'avoir des réponses. Voilà. Et en face, on a malheureusement un système de gouvernance qui est engoncé dans cette logique-là.
Justement, en termes de gouvernance, il y a une critique qui a émergé ces dernières semaines et j'imagine que vous avez largement écrit dessus. C'est la question de la présence du Conseil de défense pour gérer la crise sanitaire en France. Un Conseil de défense devenu si banal qu'on n'interroge ni sa pertinence ni sa légitimité. Quelques extraits de chaînes d'infos.
Et je vous propose de partir sans attendre vers la cour de l'Élysée, le palais présidentiel, où se tient en ce moment même un conseil de défense extraordinaire. À l'ordre du jour, évidemment, les nouveaux cas de coronavirus.
Le conseil de défense précède généralement toutes les semaines le conseil des ministres. Alors, celui d'aujourd'hui a ceci de particulier qu'il a été élargi à Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, et bien sûr au ministre de la Santé, Olivier Véran, avec un maître mot ce matin, l'anticipation.
Lors de ce conseil de défense, toutes les options seront étudiées, même une possible fermeture des frontières.
Le conseil des ministres qui devait se dérouler ce matin attendra demain, conseil de défense donc, car il va falloir prendre des décisions concrètes.
Donc un nouveau conseil de défense en ce moment même autour du président de la République à l'Élysée. Camille Collin, ça n'est pas terminé, à quoi peut-on s'attendre?
Ça s'accélère concernant cette crise sanitaire et la gestion de cette crise sanitaire. On a appris que demain matin, il y avait un nouveau conseil de défense présidé par Emmanuel Macron. Il n'était pas à l'agenda. Il y en aura même un deuxième mercredi matin.
Voilà, alors on ne sait guère ce qui s'y dit, ce qui s'y passe. D'ailleurs, les chaînes d'infos et les autres chaînes de télévision ou de radio parlent finalement d'un conseil de défense comme on parlerait du conseil de ministre, comme quelque chose d'assez banal et qui s'est régularisé, qui est devenu tout à fait régulier durant cette gestion de la crise sanitaire. Comment, du point de vue allemand, vous analysez, vous, l'existence de ce conseil de défense pour gérer la crise Covid ?
Bah, pour nous, c'est difficile, difficilement pensable qu'on a un conseil comme ça, puisque ça implique quand même qu'il faut, il faut maintenant, je crois, dans cette deuxième phase de la crise, être plus transparente, plus ouverte. Il faut faire rentrer le débat dans des institutions où on peut en discuter ouvertement. Il faut y avoir un débat parlementaire, il faut peut-être contacter les groupes de sociétés pour se mettre d'accord, pour qu'ils puissent faire aussi des propositions. Donc le Conseil de défense symbolise tout le contraire. Et à nouveau, je crois qu'on revient à ce qu'on avait dit au début, avec les attestations qu'il faut pour sortir. Maintenant, pendant la deuxième vague, dans la perspective qu'il faut vivre avec ces virus encore des mois, il faut sortir de toutes ces institutions, à mon avis, d'un point de vue allemand, où la transparence est réduite.
Léo Klim, vous êtes d'accord avec cette idée qui consiste à dire que finalement le Conseil de défense rajoute encore plus à la défiance des Français vis-à-vis des décideurs sur notamment l'acceptabilité des mesures de restriction sanitaire?
Bien sûr. Et surtout, je ne comprends pas véritablement techniquement pourquoi, pour gérer cette crise, avec évidemment effectivement les réductions de liberté, pourquoi on a besoin d'un régime spécial, dérogatoire, d'urgence. Il y a un journaliste qui a posé cette question dans la dernière conférence de presse à Jean Castex et il n'a pas eu de réponse. Parce qu'en fait, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi est-ce que matériellement, est-ce que c'est nécessaire en fait
C'est intéressant ce que vous dites parce que effectivement, Jean Castex, qui a été interrogé là-dessus ce jeudi, dit les décisions qui sont prises en Conseil de défense, elles sont en gros, ce qu'il dit, analysées avant et ensuite c'est également au processus gouvernemental de les mettre en application. Mais effectivement, on se dit pourquoi finalement le Conseil de défense existe ?
Bah, c'est comme d'habitude. Donc oui, bon, le gouvernement invoque la guerre. Enfin, il le fait plus dans les paroles, mais c'est un instrument de guerre, de régime d'exception. C'est un peu dommage et effectivement, ça n'aide pas à faire accepter. Ça attise la méfiance et peut-être aussi les théories de complot, parce qu'évidemment, on va avoir bon jeu à les complotistes à dire, ben voilà, vous voyez, ils sont en catimini, en secret, et c'est vrai. Pourquoi est-ce que la transparence, donc comme principe démocratique de base, est-elle un obstacle à la gestion de crise?
Oui, tout à fait. Et vous évoquiez le modèle allemand. Tout à l'heure, très brièvement, Britta Sandberg, vous parliez du fédéralisme. C'est intéressant aussi de montrer comment l'Allemagne gère la question de la crise sanitaire avec ce cadre qui est effectivement complètement différent du cadre français, ce cadre des Länder. Une image peut-être à vous montrer, c'est celle d'Angela Merkel qui est entourée des présidents ministres des Länder. Alors, si je ne me trompe pas, on a à notre droite le ministre-président de la Bavière, n'est-ce pas ?
C'est ça.
Voilà. Markus Söder. Et à gauche, donc, le ministre-président de Berlin, Michael Müller, président de la Bavière, ministre-président de la Bavière étant du CSU, donc parti de droite, et ministre-président de Berlin, du SPD, donc parti classé à gauche. Alors, ce n'est pas qu'une image, celle-ci. Hein, c'est une conférence de presse qui avait été donnée par Angela Merkel et les ministres-présidents à la suite d'une longue réunion de négociation. On est vraiment au cœur même du système politique allemand qui consiste à avoir une sorte de consensus même sur la question de la gestion de la crise sanitaire. C'est quelque chose qu'on imagine très très mal en France. Léo Klim.
Oui, effectivement. Ça s'avère être un avantage pour justement légitimer démocratiquement, ou enfin pour élargir la légitimité et l'adhésion aux décisions. Après, je ne voudrais pas passer sous silence qu'il y a en Allemagne une très forte opposition et aussi des mouvements conspirationnistes et complotistes qui se montrent, qui font des manifestations et qui sont en dehors de tout ça. Et qui se rallie politiquement peut-être, plutôt de l'extrême droite. Mais si vous parlez de l'échiquier politique classique, vous avez quasiment tous les partis en dehors de l'AFD, donc le parti d'extrême droite, qui sont en fait dans la boucle et qui soutiennent politiquement les mesures qui sont prises et qui ensuite peuvent être graduées de land en land.
Alors, juste pour qu'on comprenne, peut-être Britta Sandberg nous expliquait aussi que, si j'ai bien compris, la santé est une compétence des Länder.
Oui, et donc, il y a des avantages, puisque par exemple, la structure sanitaire, vous allez trouver des hôpitaux et vraiment beaucoup de lits de réanimation repartis sur toute l'Allemagne, donc pas seulement dans les grandes villes, pas seulement à Berlin, Munich, Hambourg, mais aussi, par exemple, une ville comme Saarbrück, qui a, je crois, 170 000 habitants, a pu prendre, lors de la première vague, des patients français dans leurs hôpitaux. Donc, vous avez un système sanitaire qui est différent de la France. Vous avez les différents Länder qui décident sur les règles, ce qui a mené aussi à beaucoup de désavantages et une certaine cacophonie, puisqu'en fait, il y a eu par exemple des Länder qui ont dit soudainement que les Berlinois ne pouvaient plus aller à Mecklenburg-Vorpommern, un endroit à l'est de l'Allemagne, dans les hôtels, donc il fallait que les vacanciers partent. Enfin, je veux dire que l'Allemagne a une culture politique différente, mais il ne faut pas non plus que maintenant tout est en rose.
Et les correspondants français en Allemagne, d'ailleurs, l'ont beaucoup écrit sur les disparités, la cacophonie et aussi le sentiment d'injustice ou en tout cas d'inégalité qui a pu être ressenti par un certain nombre d'Allemands sur les différentes mesures de restrictions sanitaires d'un land à l'autre. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce qui a été décidé, c'était de ne pas voter un état d'urgence sanitaire en Allemagne.
Mais pourquoi ?
Alors pourquoi, Léo Klim ?
Non, mais pourquoi le ferait-on ? Ça, c'est
Ah oui, pourquoi le ferait-on ? C'est ça la question.
Oui. C'est... Mais oui, je voudrais juste souligner ce que dit Britta Zandberg. C'est évidemment, nous ici, donc on se montre très critique envers la France et c'est notre métier. Je pense et j'espère que nos homologues français en Allemagne en font de même pour l'Allemagne, parce que je tiens à le dire, parce que quand j'ai fait cette expérience, quand je m'exprime de façon critique sur la France dans les médias français et que je suis dans mon rôle de correspondant, parfois je reçois des réponses. Enfin, il y a des gens qui se sentent vexés et qui, dans une sorte d'élan d'orgueil national. Évidemment, c'est pas c'est pas une attaque contre la France qu'on fait quand on est critique comme ça.
Britta Zandberg, vous vouliez réagir ?
Non, je suis. Enfin, oui, évidemment, on est censé être critique aussi bien envers la politique allemande comme la politique française. Mais il faut quand même pas oublier que tout ça n'a pas été simple et que l'Allemagne, ça, il faut le souligner, dans toute la gestion différente de la crise, politiquement complètement différente par rapport à celle de la France, l'Allemagne a aussi eu de la chance. Au printemps, puisque l'Allemagne a eu le temps de regarder comment ça se passe en Italie, comment ça se passe en Espagne, comment ça se passe en France, et a pu en tirer les conséquences. Donc c'est simplement un hasard de timing aussi qui a fourni un avantage aux décideurs en Allemagne pour réagir autrement que d'autres.
Oui, alors vous parliez tout à l'heure, Léo Klim, des réactions extrêmes qu'il y a pu y avoir. Il y a eu des manifestations anti-masques, il y a eu des regroupements assez suivis, en tout cas en comparaison avec ce qu'on a pu trouver vu en France. Par exemple, là, une des dernières manifestations, c'était le 7 novembre à Leipzig. Il y a eu aussi la tentative d'assaut du Reichstag à Berlin en août dernier. Est-ce que vous, correspondant allemand à Paris, qui donc suivait plutôt la gestion de la crise sanitaire ici du côté français, est-ce que quand vous avez vu ces images, vous avez été surpris, Britta Zandberg?
Bon, l'assaut du Reichstag, à mon avis, je crois que ça a été un peu exagéré, parce que finalement, ils sont allés sur les marches du Reichstag, mais le Reichstag était sécurisé, comme on le voit sur les images. Le Reichstag n'a à aucun moment été en danger, les gens ne pouvaient pas rentrer. Oui, c'est des complotistes, c'est des gens de l'extrême droite, c'est des gens, ce sont ceux aussi qui sont contre les vaccins, qui ont contesté contre ces mesures. J'étais pas tellement surpris parce que ça a été annoncé et ils se sont manifestés avant. Bon, on peut s'étonner que ils aient pu aller jusqu'aux marches, peut-être, du Reichstag.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va quand même beaucoup à l'encontre de l'image qu'on peut-être véhiculer, nous, en France, sur l'Allemagne, avec cet esprit de consensus sur les questions des décisions, notamment sur les mesures de restriction sanitaire, où il y aurait plus d'acceptabilité. Et puis, on le voit aussi, les morts sont quand même moins importants en Allemagne aujourd'hui qu'en France, 4 fois moins en Allemagne qu'en France. Vous, Léo Klim, comment vous avez réagi en voyant ces images?
Alors, ça me désole pas mal. Je dois dire que ça fait quelques années que je suis en France, donc j'ai un regard de plus en plus distant sur l'Allemagne. Et je constate que c'est une société qui effectivement perd de plus en plus. Où le consensus, comme vous l'évoquiez, va de moins en moins de soi et qu'il y a des extrêmes qui se renforcent. Quand je vois ces images-là, quand je vois ces manifestations-là, et c'est des gens qui s'insurgent contre les privations de liberté, évidemment, je suis un fervent défenseur des libertés aussi, mais je me dis, ils ne savent pas très bien ce que c'est, en fait, d'être vraiment privé de ses libertés dans un confinement. Parce que jusqu'à ce jour, il n'y a pas
eu de confinement
aussi strict en Allemagne. Donc voilà, c'est triste et ça me fait un peu peur aussi quand je le vois. Et j'espère que le système politique allemand et la démocratie allemande sont assez forts pour faire avec. Je note effectivement qu'en France, alors vous avez évoqué en début d'émission ce documentaire qui a eu beaucoup de succès et qui a été financé. En France, il n'y a pas ces manifestations dans les rues des gens qui se rebellent. Donc quelque part, les Français, en fait, sont assez disciplinés dans le confinement.
Je vous remercie tous les deux d'avoir accepté de répondre à nos questions et notre invitation. C'est la fin de cette émission d'Arrêt sur Image. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.